Le cajot. À mi-chemin de la cage, au cachot, la langue française a cajot. Simple caissette à claire-voix vouée au transport de ses fruits qui, de la moindre suffocation, font tout à coup une maladie. Agencé de façon qu'au terme de son usage, il puisse être brisé sans effort. Il ne sert pas de foi. Ainsi dure-t-il moins encore que les denrées fondantes ou nuageuses qui l'enferment. À tous les coins de rue qui aboutissent aux halles, il luit alors de l'éclat sans vanité du bois blanc, tout neuf encore et légèrement ahuri d'être, dans une pose maladroite, à la voirie jetée sans retour. Cet objet est en somme des plus sympathiques, sur le sort duquel il convient toutefois de ne s'appesantir longuement. André Débouché, pour vous, le cajot n'est pas une fiction.
Pas du tout. Il y a un rapport d'écrivain à ce qu'il écrit, qui engage le lecteur dans la matière de ce qu'il lit. Et oui, je dirais que le cajot n'est pas une fiction. Vous dites le cajot, on pourrait citer n'importe quel texte de Ponge. Dans la mesure où le cajot en question n'est pas un objet. Et là, dans ses écrits, la littérature non plus n'est pas un objet. Bon, je dis chose, mais ça implique justement une relation ouverte, où ce qui est à dire, ce qui veut se dire, se cherche en cours d'écriture. Et cette recherche en cours d'écriture est la pesée d'attention, la pesée attentive qui précisément donne la forme de ce qu'on lit, invente la forme de l'écrit. Un écrit en cours, un écrit interminable dont éventuellement un extrait aura été donné. J'imagine que vous parlez du cajot, par exemple. Eh bien, le cajot suppose un long travail, n'est-ce pas, dont là, un état est donné sous forme de cajot, mais ce n'est pas l'état définitif. Et il n'y a pas, il me semble, dans la plupart des écrits de Ponge, un projet à l'origine de ce qui vient éventuellement sous vos yeux, de ce qu'on lit, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de forme préconçue, disons. Il ne se donne pas pour objet, il n'y a pas d'objet, il ne se donne pas pour objet, pour objectif d'écrire un poème dont la forme préconçue serait à remplir, ce qui est, je pense, toujours le cas de la plupart des poètes écrivains.
Vous parlez tout à l'heure de l'inouï. Chez Ponge, oui. De quoi est fait cet inouï pour vous ?
C'est-à-dire que l'inouï, j'ai employé ce mot comme ça, littéralement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore pleinement entendu en français. Ça répond aussi peut-être à une situation de la littérature, de la poésie. Aujourd'hui, écrire un livre, une page, n'a pas de destination évidente. Aujourd'hui, à qui s'adresse-t-on ? Pourquoi écrit-on ? Pour qui écrit-on ? On n'attend pas de le savoir pour entreprendre d'écrire. Il me semble en particulier, c'est ce qui rend ce qu'il écrit tout à fait absolument authentique. Il me semble que très, très longtemps, ou toujours, ou jusqu'à présent, il allait de soi qu'écrivant, on était assuré d'une audience, d'un certain type de lecture, d'un certain type de lecteur. Tout cela s'organisait dans un filet de référence très précise qui supposait une connivence ou un accord. Même tout cela me semble brisé depuis assez longtemps, rompu. Alors, je trouve que là, quand je disais inouï, il me semble que la Ponge aura été le premier ou l'un des premiers à tenir absolument compte de cette situation, à la prendre en compte. et à ne pas attendre d'avoir une réponse à la question qu'il se pose pour aller de l'avant, pour écrire, n'est-ce pas? Alors cela, il me semble qu'on ne l'avait pas encore entendu en français.
Qu'est-ce qui pousserait Ponge à écrire? Est-ce que ce n'est pas une espèce de combat de la poésie, d'être contre la poésie?
Bien, écoutez, contre la poésie, je pense que lorsqu'il dit qu'il, s'il a dit qu'il était contre la poésie, je pense que c'est une façon de s'inscrire en faux contre un élément mystificateur, contre une fiction. Ce qui apparaît aujourd'hui, un poème, écrire un poème, enfin, je trouve qu'il y a dans ce mot une forte charge de fiction. Cela l'est devenu. Alors, il est arrivé... Mais c'est là, n'est-ce pas, que c'est la forme aujourd'hui de la poésie, je dirais, s'inscrire en faux contre cette charge de fiction de la poésie pour atteindre à une vérité. Il s'agit d'une vérité d'esprit.
Le patrimoine des choses est paru pendant l'occupation. Il avait été...
42.
Il avait été reçu par... naturellement par Gallimard avant l'occupation, mais il s'est sorti pendant l'occupation. Et à ce moment-là, moi j'étais en zone sud, enfin, et pour l'heure, il m'a demandé si je désirais voir les épreuves. J'ai dit non, corrige, et puis... fait le service de presse. Il a fait le service de presse et il a envoyé notamment de ma part au peintre, que moi je connaissais plus ou moins, enfin, mais pas tellement.
Ah, c'est donc Paulhan qui a fait votre service de presse.
Oui, c'est lui qui a fait le service de presse. Et il a envoyé notamment au peintre. Il a envoyé à
Picasso, Braque.
À Braque et à Picasso en particulier. Qui, alors, tout de suite après, Paulhan m'écrivait alors, dans les cartes interzones. Braque me parle souvent de toi, etc. Enfin, Braque, je savais déjà depuis longtemps que Braque aimait ça.
Vous êtes très proche, vous et Braque.
Oui, dans ça j'étais vraiment...
Par la suite.
Oui, enfin, c'est-à-dire qu'on a dit plus tard, enfin, c'est un critique anglais très célèbre, d'ailleurs très... qui était un homme tout à fait remarquable, dont le nom m'échappe à l'instant même, qui dans sa revue anglaise a dit que j'étais une sorte de Braque en prose. Voilà. Mais enfin, tout ceci, toute chose égale par ailleurs, parce qu'en fait, Braque était un homme beaucoup plus âgé que moi, et puis certainement, je ne me mets pas, moi, à la hauteur de Braque, certainement pas. Braque était quelqu'un doué d'un génie, enfin, vraiment, il n'est pas question pour moi. Non plus que Picasso, d'ailleurs, que je mets tout à fait à la hauteur de Braque, enfin, alors qu'on a dit d'une façon idiote que... Parce que aussi, je trouve que...
Pour Braque, je peux comprendre votre complicité, mais pour Picasso, c'est peut-être moins évident. Qu'est-ce qui vous intéressait chez lui?
Oh, ben, c'est un génie de premier ordre. Enfin, c'est le seul qui était capable, à la fois, connaissant tout, ayant tout vu, tout connu... Parce qu'il a énormément lu, il a vu tous les musées, tous les zoos, toutes les choses vivantes, l'art de tous les pays du monde, n'est-ce pas? Et bien il a digéré cela et il le rend à sa façon, n'est-ce pas? Et ben, il faut quand même un certain, oui, un certain estomac, une certaine qualité. Et vraiment, non, c'est un merveilleux génie. Puis c'était vraiment, au point de vue des répliques, enfin, il était fantastique. Enfin, je me rappelle, enfin, c'est-à-dire qu'il avait un seul défaut, s'il était capable, pour un bon mot, n'est-ce pas, d'avoir l'air de sabrer quelqu'un. Quand il a dit de Braque, c'est ma femme, enfin, par exemple, enfin, pour dire, enfin, alors que Braque était loin, vous savez que c'était au contraire un tombeur de femmes, enfin, il était l'amant notamment de cette fameuse de cette fameuse... Enfin, il a été de grand nombre de femmes, mais notamment de cette, vous savez, atmosphère.
Ah oui.
Vous savez.
Arletty.
Arletty, oui. Qui est, enfin, beaucoup de peintures de Braque sont des portraits d'Arletty, enfin, sont d'après Arletty. Enfin, mais le fait est que... Et alors, ben, je m'appelle Picasso disant, pour le plaisir d'un bon mot. Par exemple, il trouve un cheveu dans le potage. Il dit, tiens, un dessin de Matisse. Voilà. Parce que, voilà, c'était... Non, il avait cette capacité d'envoyer un mot comme ça. Donc, il était assez terrible de ce point de vue-là.
Mais vous le regardiez travailler, parfois ?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que il fallait, n'est-ce pas ? Vous savez, la différence était énorme, puisque Braque, j'avais rendez-vous avec lui immédiatement. Il suffisait de téléphoner. J'avais rendez-vous avec lui et j'étais seul avec lui dans son atelier, n'est-ce pas ? Bon, et puis on passait le temps qu'on voulait avec lui. Tandis que Picasso, oui, mais on trouvait 50 personnes avec un peu de gens, enfin naturellement des marchands, puis avoir des gens de tous les pays du monde, enfin, qui venaient là. Il fallait que Picasso vous prenne à part, vous dise viens avec moi, et puis vous emmène dans un autre atelier pour parler avec lui, pour vous dire, tiens, je vais te montrer ce que j'ai inventé cette nuit. N'est-ce pas, par exemple, un outil pour graver en descendant au lieu de monter, n'est-ce pas, en burin, n'est-ce pas, pour pouvoir graver comme ça, comme on décrit. Enfin, des choses comme ça. Puis alors, il y a des preuves, alors, de l'amitié. Vraiment, quand Braque est mort, Picasso n'a pas voulu recevoir personne pendant 24 heures ou 48 heures, n'est-ce pas, il s'est enfermé. Et puis il a, ça je l'ai appris, beaucoup plus récemment, justement à une exposition Braque à Argenteuil, n'est-ce pas ? Braque était né à Argenteuil. J'ai appris là par la secrétaire de Braque, qui vit encore, elle. Elle m'a dit, quand on a opéré Braque, quand le docteur a enlevé à Braque, il l'a enlevé l'estomac pratiquement, n'est-ce pas ? Parce que Braque était menacé quoi, d'une tumeur ou quelque chose comme ça. Il l'a enlevé l'estomac. Et évidemment, ça a été un coup dur pour Braque. Enfin, c'était difficile. Ensuite, eh bien, Picasso est allé vivre à Varengeville, dans la propriété de Braque, pendant 8 ou 15 jours. Vivre avec lui pour l'aider à passer ce mauvais passage. Enfin, c'est absolument évident, enfin, qu'il y avait des relations quasi fraternelles entre eux, n'est-ce pas ? Malgré les mauvaises paroles que parfois Picasso ne se retient pas de lancer. Oui.
France Culture, vous écoutez Le Bon Plaisir de Francis Ponge.
Francis Ponge décrit « La femme qui pleure ».
De Picasso.
1937.
Il s'agit évidemment d'un portrait. C'est très lisible, les yeux sont en leur place, la bouche aussi, le chapeau aussi, la chevelure aussi. Enfin, tout cela fait que la chose est parfaitement lisible comme étant un portrait de femme, étant donné, à l'époque dont il s'agit, la longueur des cheveux. L'impression immédiate est une impression que le trait, le dessin, a plus d'importance encore sans doute que la peinture, les couleurs apparaissant comme placé à l'intérieur des traits. Ces couleurs comportent à peu près toute la palette, depuis les tons les plus chauds, comme le rouge du chapeau, par exemple, jusqu'aux tons les plus froids, comme le vert de la partie droite du visage et du col du corsage. Il n'y a pas du tout de séduction dans le passage d'une couleur à l'autre. C'est un tableau qui pourrait, s'il n'avait pas le graphisme qu'il a, être considéré un peu aussi comme un tableau fauve, n'est-ce pas? Le blanc du centre est très frappant, parce qu'alors là, l'expression des formes et de la couleur, qui est simplement une peinture blanche avec des traits noirs et bleus, c'est comme s'il s'agissait d'une photo très réaliste, n'est-ce pas? Il y a un certain nombre de dents, par exemple, les coins de la bouche, sans relever d'une certaine façon, le fait de mordre le mouchoir est exprimé aussi par les plis du mouchoir, et le côté lugubre, enfin, ou funèbre de la chose, est très accentué par le fait du noir et blanc, un peu comme dans le deuil, n'est-ce pas? Le tableau est extrêmement équilibré, il y a le rouge du chapeau, et il y a le rouge du fond derrière les épaules du personnage, qui rend le tableau tout à fait statique. Alors je pense que aussi les horizontales très marquées du fond sur lequel se détache le personnage sont faites pour aussi rendre plus sensible le côté très violemment explosif et contourné du visage douloureux, n'est-ce pas? Puisqu'il s'agit d'une femme qui pleure, c'est clair. Alors je pense que cela est réalisé en grande partie par le contraste entre les verticales et les horizontales et même les obliques très fermes du fond et le côté explosif et contourné du visage et surtout du centre du visage. La matière est aussi très intéressante parce qu'il ne s'agit pas, bien que le dessin ait une grande place et que la couleur soit, pour ainsi dire, superposée ou insérée à l'intérieur du dessin, ce n'est pas la couleur qui fait la forme. Elle est vraiment faite par le dessin lui-même. Alors ce qui me paraît très intéressant, c'est que bien qu'il s'agisse de cela, c'est-à-dire surtout d'une peinture dessinée puis coloriée, on pourrait presque dire que c'est du dessin rehaussé, n'est-ce pas, évidemment fortement rehaussé, il y a tout de même une valeur de la matière, n'est-ce pas, qui en fait évidemment une peinture et non pas un dessin rehaussé. La touche est assez grasse, n'est-ce pas, par endroits. Enfin, il y a des touches horizontales sur le mur du fond, il y a des touches assez épaisses, pas tout à fait haute patte, mais enfin tout de même un peu, sur la partie gauche, c'est-à-dire droite de la figure, en haut du front de la tempe, n'est-ce pas? C'est surtout remarquable là. L'importance de la couleur ne doit pas être sacrifiée, puisque c'est un tableau violemment coloré, n'est-ce pas? Et qu'on ressent immédiatement à la fois comme très dessiné et comme très violemment coloré. Alors, dans certains tableaux de Picasso, il y a des délicatesses de couleur qui n'apparaissent pas ici. Il y a pourtant ici des tons très rares, n'est-ce pas? Comme par exemple le ton du manteau, qui est un brun violacé, n'est-ce pas? Une couleur difficile à obtenir et rare, et qui s'oppose aux couleurs quasi pures du vermillon, du jaune et du bleu de la face. Il faut aussi remarquer, du point de vue de la couleur, le fait qu'il est placé dans le haut du visage de la femme, autour des yeux et entre les yeux, des taches mauves, qui viennent évidemment en complémentaire du vert et du jaune qui s'y oppose le plus brutalement qu'il soit, n'est-ce pas? Cette brutalité, d'ailleurs, ajoute à la force du tableau. Je ne l'emploie pas du tout comme un mot défavorable. Cela ajoute à la puissance de l'expression, n'est-ce pas? Il y a évidemment aussi une partie pour les noirs, tout à fait différent que, par exemple, les noirs chez Manet. Il y a un très beau noir qui encadre la partie droite, donc gauche de la figure, n'est-ce pas? Un très très beau noir. Voilà à peu près ce que je peux dire. Évidemment, tout cela est lisible à la longue. Je pense aussi que ce tableau doit être regardé assez longuement et qui sera lisible pendant très longtemps, enfin, et que on pourrait le décrire encore beaucoup plus précisément. Je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel de mon impression.
Il était dur à l'égard des peintres et assez compréhensif à l'égard des écrivains.
Qui donc ?
Picasso.
Oui, mais vous savez, enfin, pas tellement. Je l'ai connu aussi, attentif à certains peintres. Par exemple, et je me souviens, j'avais un ami qui est mort très jeune de Parkinson, qui s'appelait... Ah, les noms propres. Enfin, je l'ai bien connu. Et il m'a acheté beaucoup de manuscrits. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et qui avait... Ah, comment s'appelle-t-il ? Enfin, peu importe. Eh bien, Picasso a envoyé sa Barthès, vous savez que c'était son
homme de confiance.
Oui, un homme de confiance. Il l'a envoyé pour voir ce peintre et pour savoir ce qu'il valait, n'est-ce pas ? Et sa Barthès est revenu en disant oui, c'est bien. Et il est devenu alors l'ami de notre ami. De mon ami à moi, à un tas de gens, à Ionesco, à un tas d'autres. Et il passait son temps en Floride à peindre les Indiens. Comment on a vu ça tout récemment dans un film hier ou avant-hier, les Séminoles, les Indiens de Floride. Et j'ai beaucoup de peintures de lui. Ici, je ne crois pas, mais je n'ai donc pas ici, pas dans la pièce ici. Ici, il y a Braque ici, n'est-ce pas ? Ça, c'est une chose qui m'a été donnée plus tôt. C'est une litho de Braque. J'ai écrit, vous savez, pour la Fondation MAG, à plusieurs reprises. Ils m'ont demandé des textes pour telle ou telle nuit de la Fondation, telle ou telle fête. Et alors, me demandant, comment voulez-vous ? Qu'est-ce que vous voulez pour vous payer ? Alors j'ai dit, ben, beaucoup d'argent, ou une chose de Braque. Alors bon, alors ils m'ont donné ça. Ça, c'est encore Braque, là.
Pourquoi vous riez quand vous dites beaucoup d'argent ? Vous avez un curieux rapport à l'argent, que j'aime assez d'ailleurs.
Mon rapport, c'est le rapport de Malherbe, dont Malherbe disait, je ne sais pas trop ce que valent mes pièces, je la prends d'après l'argent qu'elle me valent quand la reine, Marie de Médicis, ou Richelieu, ou Henri IV, me mettent un peu plus d'argent sur la liste des pensions, et bien, c'est donc que mon texte était bon. J'en juge d'après ce qu'il me rapporte.
Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais j'ai l'impression que les écrivains en France ont un peu peur de ce rapport-là.
Oui, bon, oui, en général.
Il y a une idéologie qui dit que, bon, on travaille gratuitement.
Qui dit ça ?
En général.
Oui, oui, c'est absurde. Vous savez, il y a quelques années, j'ai reçu un coup de téléphone, j'étais encore ici, c'était au mois de novembre, quelque chose comme ça, et j'ai reçu un coup de téléphone d'un monsieur qui m'a dit, écoutez, monsieur, voilà, je vous ne me connaissez pas, moi je vous connais, et le ministre, c'était M. Jacques Lang, a décidé de créer un prix national de la poésie, en plus de le prix national de littérature, de ceci, de cela, mais spécialement de la poésie. Nous sommes un certain nombre à penser que c'est vous qui devez être le premier à recevoir ce prix. Si on vous le donne, est-ce que vous l'accepterez ? J'ai dit, écoutez, moi, je ne fais rien pour mériter les prix. Je ne suis jamais candidat à un prix. Mais si on me l'offre, ben, bien sûr, je l'accepte. Est-ce qu'il y aura un peu d'argent ? J'ai dit, et l'argent ? Non, pas beaucoup d'argent, mais... J'ai dit, ça sera sans impôt. Il me dit, oui, sans impôt. Bon, alors, j'ai dit, vous savez, je trouve beaucoup plus prétentieux et désireux de publicité de refuser un prix. J'ai beaucoup d'amis qui ont refusé des prix, notamment Gracq, notamment Michel Léris, notamment bien d'autres. Enfin, Char, Dieu sait combien, ont refusé des prix parce qu'ils espéraient en avoir de plus importants, sans doute, plutôt le Nobel ou autre chose. Mais, bon, enfin, tu vois-tu que...
Vous n'êtes pas candidat au Nobel ?
Je n'ai jamais été candidat à quoi que ce soit. J'ai été sur les listes. À un moment donné, je l'ai appris par des Allemands. À un moment donné, j'étais en seconde position pour le Nobel. Mais enfin, peu m'importe. Enfin, c'est-à-dire, peu m'importe, je serais assez content. Bien sûr, à cause de... Oui, mais le fait est... Enfin, oui.
L'argent.
Oui, ben, bien sûr. Mais enfin, le fait est que... Enfin, je n'ai pas besoin de ça et que je ne veux pas faire de platitude pour ça. Et puis je suis...
Mais qu'est-ce que vous faites de cet argent-là ? Qu'est-ce que vous achetez ? Des toiles ? Des peintures ?
Mais non, je vis. Vous savez, ça devient de plus en plus difficile. Hein. Non, on a besoin de beaucoup d'argent pour simplement pour maquer, pour manger, pour c'est vrai. Puis maintenant, je n'ai plus le droit de faire de voiture. Alors je suis obligé de prendre des taxis ou de... Je n'ai plus le droit, ma femme ne conduit pas et moi-même... à cause de mes histoires d'yeux, je ne peux plus conduire. Mes chirurgiens m'interdisent la conduite. Alors, voilà, ça me coûte cher, quoi. Et puis la propriété ici me coûte cher aussi, parce qu'elle est vaste. Et puis pour faire faucher, hein, ben, y en a pour chaque année beaucoup d'argent, ça coûte cher. Mais c'est très bien d'avoir une maison, mais enfin, il y a toujours des réparations, tas d'histoires.
Vous passez toute l'année ici ? Ou bien vous montez, vous venez à Paris ?
Non, nous venons à Paris. En général, nous passons, ce qui est un peu paradoxal, nous arrivons à Paris généralement un petit peu avant les fêtes de fin d'année, pour les passer avec ma fille et mes petits-fils qui vivent à Paris, et, enfin en famille. Et puis nous y restons un peu plus longtemps, quoi. Et certaines années plus longtemps.
Comment passez-vous vos journées ici ?
Mes journées ? Maintenant, vous savez, cette année, c'est un peu difficile parce que j'ai ces ennuis respiratoires. J'ai aussi, comment dirais-je, des nuits qui sont plus ou moins fatigantes parce que j'ai besoin de... Enfin, il ne faut pas que je sois trop couvert, il ne faut pas que je ne sois pas assez, c'est assez difficile. Surtout, en ce moment-ci, c'est difficile. À cause du fait qu'on ne sait jamais s'il va faire froid, chaud, etc. Enfin, les saisons, certaines saisons sont vraiment difficiles. Alors, je passe des nuits souvent pas très, très... Enfin, que je trouve interminablement longues. Enfin, ça dure terriblement longtemps. On se couche tard, pourtant, en général. En général, on se couche tard. Et...
Alors, qu'est-ce que vous faites la nuit ? Vous pensez
ben
ou
non,
vous lisez ?
Non, je pense, non, je lis. Je lis un peu, parfois, mais pas tellement. Mais je... Grand-mère, oui, je pense. Oui, ça, il n'y a pas de doute. Un peu trop, enfin, oui, oui. Et puis, j'ai des livres de chevet, bien sûr.
Lesquels ?
Beaucoup La Fontaine, beaucoup des livres sur les Étrusques, parce que j'adore... cette civilisation, et notamment un livre de Jacques Ergon, la vie quotidienne chez les Étrusques. Un très très bon livre. Oui, j'aime beaucoup cette civilisation. Je crois que, enfin, il y a chez moi aussi un peu d'origine étrusque, enfin, je veux dire, autant que romaine. Je me suis trouvé à Rome pour des années saintes, par exemple, où il vient des Calabrais, des Siciliens, des gens... du midi, comme ils disent, qui m'arrête dans la rue pour me demander comment aller à Sainte-Marie-Majeure ou à Saint-Pierre-du-Vatican, parce qu'ils me prennent pour un Romain. Mais il y a eu à un moment donné une grande exposition étrusque à Paris, et vraiment, il y avait un bronze étrusque d'un jeune étrusque, c'était moi, enfin, ça, il n'y a pas de doute, enfin, je veux dire, c'était mes défauts, si vous voulez, physiques. C'est-à-dire un peu court sur pattes, et le buste un peu trop long par rapport aux jambes. La forme des mollets, enfin, c'était certainement beaucoup plus près de ça que des...
C'est vrai que vous avez un masque assez étrusque, hein, un front étrusque.
Je ne sais pas trop, mais le fait est que je n'ai pas le gabarit des légionnaires romains.
Comment feriez-vous la différence entre la prose et le vers ?
Aucune. Aucune différence. C'est-à-dire que très souvent, je l'ai d'ailleurs montré, ça dépend, ça, pas tous mes textes, mais beaucoup de mes textes peuvent être écrits, peut-être publiés, si vous voulez, imprimés, en prose ou en vers, n'est-ce pas ? Je l'ai montré de la façon la plus probante, enfin, me semble-t-il, à propos d'un texte sur Fenosa, sur le sculpteur catalan, Apelles Fenosa. J'ai écrit ce texte pour une galerie parce qu'il y avait une exposition des sculpteurs de Fenosa chez le boulevard Haussmann, chez Dugour, je crois. Dugour, non. Dubourg, oui. Et alors là, bon, ça a pris l'apparence d'un texte en prose. Et puis, je l'ai publié par la suite, c'est dans le Nouveau Recueil, je crois que c'est le dernier texte du Nouveau Recueil, sous forme prosodique. Exactement, sans changer un mot. Ça pouvait être, absolument. Et il se trouve aussi, on m'a beaucoup fait remarquer, que mes textes, enfin, la plupart de mes textes, les plus travaillés en tout cas, était en vers, avait l'air d'être en prose, mais en réalité était avec des alexandrins ou des vers de 6 pieds ou de 8 pieds, des octosyllabes, etc. Je crois que c'est normal parce que le fait est que quand j'étais très jeune, justement à Avignon, il y avait une personne qui était quelqu'un de l'intimité de ma famille, s'appelait Madame de Salinelle, et cette Madame de Salinelle, qui était très musicienne, qui donnait même des concerts de musique de chambre dans ses salons à Avignon, elle avait persuadé ma famille de me prêter à elle pour m'apprendre la musique, m'apprendre le piano. Alors, à force de bonbons, de je ne sais quoi, m'avait fait les gammes et toutes les histoires comme ça. Et puis, vraiment, elle m'a même produit, dans un de ses concerts, faisait venir des solistes de Lyon pour ses concerts de musique de chambre qu'elle donnait dans son hôtel particulier. Et elle m'a produit un jour, dans un de ses concerts, moi jouant le Gai Laboureur de Schumann. On pensait que j'étais doué pour la musique. On pensait que je serais plutôt musicien que quoi que ce soit d'autre. Eh bien, non. Mais il est certain que, en un sens, la musique m'est donnée, si vous voulez. Que je n'ai pas à m'en occuper. Que mes textes, je sais, seront cadencés, rythmés, n'est-ce pas ? Qu'il y aura une espèce de musique. Je n'ai pas à m'en occuper. Par conséquent, je m'occupe d'autre chose. Je veux dire que c'est une des raisons pourquoi il y a tellement de vers, de choses en octosyllabes ou d'alexandrin dans mes textes. C'est parce que la cadence est là.
Qu'est-ce qui motive le choix du vers ou le choix de la prose ?
Eh bien, non, ce qui motive quoi, le tel ou tel sujet, n'importe lequel. Vous savez, vraiment, ça a commencé à un moment où vraiment je travaillais toute la journée, n'est-ce pas, pour vivre. Au messagerie Hachette. Et j'habitais les hauteurs de Belleville, n'est-ce pas ? J'habitais très loin. Et j'avais un trajet assez considérable pour aller. Je ne pouvais pas rentrer pour déjeuner, etc. Et bon, j'avais 14 heures où j'étais pas à moi, où j'étais employé au messagerie Hachette. Alors je rentrais le soir complètement. Enfin, n'ayant jamais été avec moi-même. Alors, je prenais n'importe quoi qui me venait à l'esprit, n'importe quel sujet. L'huître ou le, je sais pas quoi, le galet ou le. Et je voyais la trappe, si vous voulez, et j'écrivais ce qui me semblait être sortir de ma imprégnation de l'objet en question. J'avais à peu près 20 minutes comme ça pour ça. Je l'ai dit, mais c'est la vérité.
L'huître.
l'huître de la grosseur d'un galet moyen et d'une apparence plus rugueuse, d'une couleur moins unie, brillamment blanchâtre. C'est un monde opiniâtrement clos. Pourtant, on peut l'ouvrir. Il faut alors la tenir au creux d'un torchon, se servir d'un couteau ébréché peu franc, s'y reprendre à plusieurs fois. Les doigts curieux s'y coupent, s'y cassent les ongles. C'est un travail grossier. Les coups qu'on lui porte marquent son enveloppe de rond blanc, d'une sorte de halo. À l'intérieur, on trouve tout un monde à boire et à manger. Sous un firmament, à proprement parler, de nacre, les cieux d'en dessus s'affaissent sur les cieux d'en dessous pour ne plus former qu'une mare, un sachet visqueux et verdâtre qui flue et reflue à l'odeur et à la vue, frangé d'une dentelle noirâtre sur les bords. Parfois, très rare, une formule perle à leur gosier de nacre, d'où l'on trouve aussitôt à s'orner.
La plupart de mes textes, des choses, pas tous, mais une grande partie, sont des textes qui ont été faits comme ça, ou n'importe quoi. Je prenais n'importe quoi, le cendrier, vous comprenez. Ce qui me venait à l'esprit, allez, j'ouvrais le fond, quoi, ce que j'avais comme notion de cette chose, l'imprégnation depuis l'enfance. Que j'avais vraiment ce que j'avais à dire, comme ça, soudainement, et comment dit-on, il y a un mot qui m'échappe actuellement, comme ça, sans recherche, comme ça. C'est comme ça que ça a commencé. Et il se trouve que, par la suite, parlant avec des amis, des textes qui ont succédé, mais beaucoup plus tard, à ceux-là, à ceux du Père Desjardins, enfin de ce genre de texte-là, eh bien j'ai dit que c'était la même chose, mais beaucoup plus élaborée. C'est-à-dire que ce que j'avais découvert en faisant le Père Desjardins, je l'élaborais, je faisais des textes beaucoup plus longs et plus élaborés, mais c'était un peu la même chose. C'est la plupart des textes qui sont dans le volume qui s'appelle « pièces » au pluriel du Grand Recueil, n'est-ce pas, sont des textes faits à partir de cette méthode. Enfin, des textes comme, je ne sais pas quoi, ben, les arts, la chèvre, etc. Voilà.
Vous voulez qu'on arrête?
C'est comme vous voulez, si ça vous suffit pour aujourd'hui. On peut encore un petit peu, si vous voulez.
Si on parlait du pré, j'aime beaucoup.
Allons-y, le pré.
Qu'est-ce qui vous a poussé à montrer, à ouvrir le secret de fabrication?
Oh bien, ça, c'est pas difficile. C'est parce que... Pourquoi? Ben, c'est pour la même raison que j'ai montré la production aussi de... Pourquoi, moi, de...
Vous savez, la production ou la répétition, le génie de la répétition?
Oui, la répétition, si on veut.
Je reprends ma question. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du pré, quand vous l'avez publié?
Eh bien, je ne sais pas. Moi, j'ai publié ça aussi pour montrer la façon dont ça a été. C'est venu, quoi.
Est-ce que c'est l'éthique d'un échec, d'une façon exemplaire?
Peut-être. C'est possible. Enfin, c'est possible, parce que j'ai souvent dit que comme il était tout à fait impossible de rendre compte d'un objet du monde extérieur de façon définitive, que c'était impossible, parce qu'on ne passe pas d'un monde à l'autre, et que le monde extérieur et le monde des paroles, des mots, est tout à fait étanche. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une cloison étanche entre les deux. On ne peut pas passer de l'un à l'autre. C'est une bêtise de penser qu'on puisse le faire. C'est aussi pour ça, c'est très dit dans la figue de chez Flammarion, n'est-ce pas, dans un jour. Alors, c'est aussi contre cette imposture, enfin, que je montre enfin les étapes du prêt. Et qu'en effet, il est impossible de rendre compte vraiment. C'est-à-dire qu'on est à l'intérieur du monde des mots et puis qu'on ne peut pas en sortir. Et que même quand on dit qu'on en sort, eh ben on se trompe parce qu'on le dit encore dans le monde des mots. On ne peut pas faire autrement que d'être en étant fermé dans le monde des mots. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas en sortir. Vous êtes toujours obligé. Ça, je l'ai constaté avec Braque aussi. Parce que nous avons discuté une fois avec Bach ces choses-là, et je lui ai fait remarquer que ce que nous venions de dire en faveur de la peinture, eh bien, on avait dit avec des mots qu'il ne m'avait pas fait un dessin. Il était encore avec des mots que vous avez été obligé de vous exprimer.
Il faut dire que ce livre, donc La Fabrique du Pré, comporte trois parties. La première partie, votre texte proprement dit en facsimilé, avec les ratures, enfin le manuscrit.
C'est ça.
Ensuite, le poème proprement dit qui était publié dans Tel Quel, imprimé sur des pages marron.
Oui.
Et ensuite, sur des pages vertes, la dactylographie du manuscrit.
Oui, alors ça c'est absurde. Hein. Parce que ça a été fait. Ces idiots-là, ils ne m'ont pas envoyé d'épreuve de la troisième partie. Alors,
moi, je trouve que c'est une partie fondamentale.
C'est bourré de fautes. C'est bourré de fautes. J'ai essayé de corriger, mais ce n'est pas possible, il y en a trop. C'est-à-dire que c'est complètement faux. Il faut prendre la peine de lire soi-même les facsimilés. Parce que là, bon, on n'a pas besoin alors d'aller à cette troisième partie que vous trouvez fondamentale, parce que si, naturellement, ce n'est pas toujours très lisible.
Le manuscrit, non, pas toujours.
Oui, mais enfin, il faut prendre une loupe ou Dieu sait quoi, enfin, c'est débrouillé pour arriver à le lire, quand même. Parce que cette partie-là est complètement fausse. Hein. J'ai essayé de corriger en me disant, s'il y a une réédition, j'exigerai que ça soit corrigé, mais il y en avait tellement, j'y ai renoncé. C'est pas possible, c'est trop, trop fautif. Enfin, ces idoles ne m'ont pas envoyé des preuves de cette partie qui était essentielle. Ils ne l'ont pas fait.
Bref, dans le manuscrit, à un moment donné, vous laissez échapper une émotion.
Oui.
Quand vous parlez des promeneurs.
Ah oui, oui, oui. Oui.
Traversant le pré.
Oui, ben, c'est à ce moment-là que j'ai ressenti la chose comme une chose qu'il ne fallait pas laisser perdre. J'espère que je voulais conserver ce sentiment de ce que nous avions vu, ma femme et moi, de cet auteur, dans ce pré qui longeait le ruisseau, le Lignon, n'est-ce pas, et que nous avons vu ces promeneurs, cette population, si vous voulez, le sens actif, du pré. C'est-à-dire que le pré devenait peuplé. Il était peuplé de gens qui étaient là en promenade, enfin des gens un peu endimanchés, etc. Et ça m'a tellement ému, enfin, je veux dire, la façon dont le lien entre, je ne sais pas quoi, le paysage et puis l'humanité, enfin les hommes, je ne sais pas, c'est ça ou autre chose, enfin j'en sais rien, toujours, ça m'a paru être quelque chose de particulièrement intéressant, important, et qu'il ne fallait pas laisser échapper. Et je me suis dit, il faut que j'écrive ça, que j'écrive le détail de cette chose.
Et pourtant, cette émotion est perdue pour le texte définitif.
Ah bon ? Elle est pleine.
On ne retrouve pas cette émotion, ou du moins c'est la précision de l'émotion.
Ah, je ne sais pas, enfin, c'est possible. Ça, c'est vous qui êtes juge, moi pas. Enfin, en général, le texte est très. Enfin, en général, le texte a été très bien reçu. Enfin, c'est bien de la Fabrique du Pré. On dit bien le texte lui-même. C'est même des. Il y a une traduction en Amérique qui a été publiée. Par une très bonne traduction, voilà.
Il y a un énorme travail nocturne, non, dans le pré.
Dans le pré, nocturne, oui, bien sûr, comme toujours, enfin, je travaille, moi. Il m'arrive de travailler toute la nuit, et il m'est arrivé surtout, maintenant, beaucoup moins. Maintenant, j'ai envie de ne plus rien faire, hein. Ça, vraiment, j'ai... Alors, je me laisse faire pour des amis, parce qu'ils proposent des choses qui sont évidemment difficile à refuser, et qu'il serait absurde de refuser. Je ne peux pas refuser à des gens la promotion, si vous voulez, comme on dit maintenant, de ma littérature. Non seulement pour moi, mais pour mes héritiers, si vous voulez. Je ne peux pas le refuser. Et alors, c'est pour ça que j'accepte des choses comme ce que vous voulez bien faire pour moi, pour France Culture.
Jacques Derrida, quelle a été la force révélatrice du poème pongien lorsque vous l'avez découvert? Quelle a été la nouveauté révélatrice pour vous? Qu'est-ce qui fait que un jour vous êtes mis à lire Ponge? Qu'est-ce que vous y avez découvert? Parce que vous avez écrit un extraordinaire texte. D'où êtes-vous parti quand vous avez écrit ce grand texte, signé Ponge? Vous avez bien des repères, vous avez façonné une grille.
Oui, les premiers... Bon, alors on y va, là. Ça marche, là. Non, les premiers repères, le premier fil conducteur plutôt que j'ai suivi, c'est la dissémination de tous les éléments de son nom propre dans son œuvre. Hein. Alors, ça partait de du prénom, alors du FR, la franchise, la francité, la fresque, la valeur de franchise, qui est très affirmée dans son œuvre. Et puis, Ponge, alors tout le jeu avec éponge, alors, il y a un texte de lui qui s'appelle La serviette éponge, toutes les éponges, tout ce qu'on fait avec la chose éponge. Alors, la chose et le mot, le jeu entre la chose, l'éponge comme chose, et le mot éponge. Et ce filet du prénom et du nom de famille, justement, prenait une grande quantité et organisait une grande quantité de textes de Ponge. Hein. Et souvent de manière délibérée. C'est-à-dire que c'est une manière d'inscrire sa signature à même le texte. Et cela développait une logique de la signature qui m'intéressait beaucoup, à savoir que quand un nom propre est inscrit à même le texte, n'est-ce pas, à l'intérieur du texte, évidemment, ça n'est pas une signature. C'est une manière de faire du nom une œuvre, faire œuvre du nom, mais sans que l'inscription du nom propre ait valeur de droit de propriété, en quelque sorte. D'où le double rapport au nom et à la perte du nom. Hein, en inscrivant le nom dans la chose même, qu'il s'agisse du poème ou du poème devenu chose, de la chose devenue poème, en inscrivant le nom dans la chose, d'un côté, je perds la signature, mais de l'autre côté, je monumentalise le nom. Hein, je transforme le nom en chose, comme une pierre, comme un monument, et vous savez à quel point... Ponge s'est intéressé aux inscriptions, aux sculptures et aux inscriptions des noms, à même la pierre. Tu vois. Donc il faut perdre le nom pour le faire devenir chose, pour lui gagner en quelque sorte une valeur de chose, c'est-à-dire aussi une survie. Hein. Et cette double contrainte en quelque sorte est lisible dans tous les textes de Ponge comme explication avec la langue. C'est une explication entre son nom propre et la langue, entre la francité de la langue, là vous pensez au Malherbe naturellement, et la francité de son nom propre, ou la latinité de son nom propre. Alors il y a toute la généalogie inscrite dans ces deux noms. À partir de là, la chose elle-même devient l'enjeu, la chose comme lieu où le nom propre doit s'inscrire, doit d'une certaine manière contresigner le poème. La chose n'est plus, comme on le disait justement, du point de vue phénoménologique, quelque chose qui doit se laisser dévoiler, qu'on doit laisser être ce qu'elle est. La chose est l'autre qu'il faut forcer à contresigner en quelque sorte le poème. Hein. Et à partir de ce fil conducteur, j'ai reconnu un certain nombre de textes où cette scène de la signature est en jeu, et où il s'agit de forcer l'autre, qui peut être un animal, qui peut être une chose, qui peut être une hirondelle, qui peut être le prêt, à contresigner le poème. Je pense par exemple à ce passage du pour un Malherbe où Ponge écrit ceci: à tort ou à raison, et je ne sais pourquoi, j'ai toujours considéré depuis mon enfance que les seuls textes valables étaient ceux qui pourraient être inscrits dans la pierre. Les seuls textes que je puisse dignement accepter de signer, entre parenthèses, ou contresigner. C'est-à-dire qu'il s'agit que les textes sont déjà signés dans la pierre, que lui contresigne, mais en même temps il veut faire contresigner son texte par la nature. Les seuls textes que je puisse dignement accepter de signer ou contresigner, ceux qui pourraient ne pas être signés du tout. Ils sont tellement signés qu'ils se passent à la limite de signature. Ils sont tellement ce qu'ils sont, indépendants donc de l'initiative et de l'accompagnement du poète, pas, vivant, qu'ils se passent de signature. Ce qui tiendrait encore comme des objets de la nature, en plein air, au soleil, sous la pluie, dans le vent, c'est exactement le propre des inscriptions. Un peu plus loin, en somme, j'approuve la nature, je contresigne l'œuvre du temps. Alors, cette approbation de la nature, évidemment, a ici un sens philosophique général que Ponge lui-même définit souvent comme un épicurisme, par exemple, une grande sagesse, si vous voulez. Mais en même temps, cette approbation de la nature, c'est une manière de contresigner. Je prouve et je signe, je contresigne, je dis oui à la nature, et mon œuvre consiste en ce oui qui contresigne l'œuvre du temps ou l'œuvre de la nature.
Le papillon. Lorsque le sucre élaboré dans les tiges surgit au fond des fleurs, comme des tasses mal lavées, un grand effort se produit par terre, d'où les papillons tout à coup prennent leur vol. Mais comme chaque chenille eut la tête aveuglée et laissée noire et le torse amaigri par la véritable explosion d'où les ailes symétriques flambèrent, dès lors le papillon erratique ne se pose plus qu'au hasard de sa course ou tout comme. Allumette volante, sa flamme n'est pas contagieuse. Et d'ailleurs, il arrive trop tard et ne peut que constater les fleurs écloses. N'importe, se conduisant en lampiste, il vérifie la provision d'huile de chacune. Il pose au sommet des fleurs la guenille atrophiée qu'il emporte et venge ainsi sa longue humiliation amorphe de chenille au pied des tiges. Minuscule voilier désert maltraité par le vent en pétales superfétatoires, il vagabonde au jardin.
Et cet effet de contre-signature, on le retrouve partout. Quand il décrit en somme la chose, qui peut être un animal, qui peut être une scène humaine, de forme anthropomorphique, si vous voulez, quand il les décrit elles-mêmes comme des scènes d'écriture ou de signature. Par exemple, dans les hirondelles, ou dans les hirondelles, ou dans le style des hirondelles, c'est-à-dire dans l'écriture des hirondelles. C'est un vol de signature qu'il décrit. Vol de signature. Je cite... Chaque hirondelle inlassablement se précipite, infailliblement elle s'exerce, à la signature, selon son espèce, des cieux. Plume acérée, trempée dans l'encre bleu noir, tu t'écris vite, si trace n'en demeure. Et le tu t'écris, le t apostrophe, est en italique, pas, qui est donc la marque d'une réflexion, d'une autoréférence, qui signale qu'il s'agit d'une écriture signante, hein, qui, en écrivant, renvoie à elle-même, et pourtant, la référence s'est envolée dans le trafic aérien, pas dans cette mise en orbite de la chose. Chacune, dit Ponge, chacune à corps perdu, lancée parmi l'espace, passe à signer l'espace, le plus clair de son temps. Elles partent de nous, et ne partent pas de nous, pas d'illusion. Elles partent de nous, c'est-à-dire que, évidemment, elles s'éloignent de nous, mais en même temps, elles procèdent de nous, et dans ce mouvement de signature, et elles ne partent pas de nous, c'est-à-dire qu'elles ne procèdent pas de nous, mais en même temps, elles ne nous quittent pas. Et il y a là, de nouveau, la double contrainte. C'est quand elles partent de nous qu'elles nous quittent sans retour, et c'est quand elles ne partent pas de nous qu'elles nous restent le mieux attachées. Alors cette scène-là, on la retrouve avec la guêpe, on la retrouve avec dans l'avant-printemps avec les poiriers, on la trouve avec le mimosa. C'est toujours, mais toujours de façon singulière, chaque fois de façon irréductiblement originale, tu vois, c'est toujours la même scène de signature. Et ceci, je dirais, part du nom propre de Ponge. Et c'est pourquoi tout n'y revient pas. C'est pourquoi je ne voudrais pas que laisser croire qu'en m'intéressant à son nom propre d'état civil, j'ai voulu tout en déduire. Je crois, d'ailleurs, dans ce texte, je prends des précautions à ce sujet. Il ne s'agit pas de tout déduire du nom propre patronymique, et ni même de tout déduire la signature du nom propre. Tout part de son nom propre, c'est-à-dire en procède et en même temps s'en éloigne, s'en détache. Et c'est ce détachement-là qui fait œuvre, en quelque sorte.
Ça, c'est du côté inscription oraculaire des définitives. Enfin, mais il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire le côté ébauche, disons tentative orale, puisque au départ, Ponge ne parlait presque pas. Mm-hmm. Il y avait le côté aphasique. Est-ce que vous êtes sensible ça, à ce blocage initial qui va souffrir
vers... Je crois que tous les grands écrivains, les très grands écrivains, sont aphasiques, d'une certaine manière. Je me trompe peut-être, mais j'imagine mal quelqu'un qui, vivant avec l'intensité qui est celle de Ponge, avec une explication avec sa propre langue, qui soit en même temps un parleur, un éloquent. Ce qui fait que c'est dans une certaine difficulté d'élocution, en quelque sorte, que l'écriture travaille. Et Ponge est quelqu'un qui a tenu le registre, en quelque sorte, de ce travail. Hein. Il nous en a laissé avec la table, le pré, la fabrique du pré, il nous en a laissé toutes les traces d'une explication au corps à corps avec la langue, avec quelque chose, effectivement, de lent, de laborieux, de difficultueux, et qui compose avec une extraordinaire grâce. C'est-à-dire qu'il y a les deux. Hein. Quand on lit les esquisses, les projets, les brouillons, on voit la lenteur, le précautionneux, la circonspection, la difficulté à avancer, n'est-ce pas ? Et puis, en même temps, dans le rapport à la langue, une agilité, une souplesse, un savoir bondir, en quelque sorte, qui sont inséparables. Et c'est ce que j'admire le plus chez Ponge. Et puis, il a fait préparation de l'œuvre, ce prêt de l'œuvre, en quelque sorte, il en a fait une œuvre. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut plus maintenant séparer. Si, on doit pouvoir séparer un poème comme le prêt de la fabrique du prêt, la table de la certaine fabrique de la table, on doit pouvoir les séparer, et pourtant la fabrique est une œuvre à elle seule. Donc il a réussi à incorporer le pré du travail, la préparation du travail dans l'œuvre, tout
mais
en
vous
s'approchant d'une économie.
Pas que la fabrique dévore le pré, la fabrique même.
Non, je crois que le pré tient tout seul, si on peut dire, pas le poème qui est d'une économie admirable. Hein. Il n'a pas besoin de la fabrique. Néanmoins, lire la fabrique, qui elle-même, d'une certaine manière, pourrait se passer du poème, lire la fabrique a une vertu d'élucidation extraordinaire pour le poème lui-même. Et pourtant, ils se passent très bien l'un de l'autre. Enfin, ils partent l'un de l'autre, je dirais, pour reciter ce passage. Ils partent ils partent l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils en procèdent, et en même temps ils s'en séparent très bien. Parmi les choses que j'admire le plus de Ponge, il y a le prêt, il y a le soleil. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses. Pour moi, ce sont de très, très grandes œuvres de la littérature française, pour parler ce langage.